Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Crozat, Quentin Duchemin, Audrey Guélou.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 et cet après-midi, nous donnons la parole à des étudiantes et des étudiants de l'UTC pour présenter les travaux qu'ils nous ont menés dans le cadre du cours WE01. Alors c'est un cours qui aborde les technologies du web, à la fois sous les angles théoriques mais aussi pratiques. L'idée c'est de se rendre compte des enjeux sociétaux du numérique, de comment fonctionne Internet et le web, mais aussi de savoir-faire et son petit bout d'Internet dans son coin, et bien sûr avec une réflexion sur l'éthique, l'économie autour de ces questions. Alors ce semestre, les étudiantes et les étudiants ont travaillé en groupe sur un sujet qu'ils, elles, ont mis en ligne sur un site web qui comporte notamment des fiches de lecture, des articles, des interviews, et enfin aujourd'hui, ils et elles présentent une synthèse de ce travail sur Graphite. Alors pour cette émission, on va parler éthique des algorithmes de recommandation sur les médias sociaux et les moteurs de recherche. L'idée du sujet, c'était de dire que les médias sociaux et les moteurs de recherche font face à un problème difficile, qui est de sélectionner et d'ordonnancer les contenus présentés aux utilisateurs et utilisatrices, et que ces opérations, elles sont déléguées à un algorithme, le fameux algorithme chargé de déterminer les contenus pertinents. Alors bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour.
Mathis Boston, Luning Yang, Alexis Dezer et Kylian De Wolf. Je crois que Mathis, c'est toi qui vas commencer et tu vas nous parler du fonctionnement et de qu'est-ce que c'est des fameux cookies.
Tout à fait.
C'est à toi.
Alors c'est parti. Tout d'abord, il faut connaître l'utilisateur, c'est un enjeu majoritaire sur le web. Comme le web est un service gratuit mais qui a tout de même un coût pour ses acteurs, il faut payer l'hébergement et la maintenance des serveurs, le design, l'amélioration des fonctionnalités du site web, ce genre de choses. Et il faut trouver un moyen de rendre rentable sa présence sur Internet ou au moins amortir ce coût. Et donc une solution majoritairement acceptée, c'est la monétisation des données de l'utilisateur. Beaucoup connaissent l'adage, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Enfin, donc les sites affichent leur publicité sur leur page ou en collaboration avec d'autres sites pour augmenter cette présence. Et les entreprises qui veulent mieux vendre leurs produits ont pour volonté de se faire connaître aux clients adéquats, aux bons clients et au bon moment. Et donc, ils vont personnaliser l'affichage de ces pubs en fonction de l'utilisateur pour que la chance de provoquer un achat, de provoquer un clic ou un quelconque intérêt soit plus grande. Aussi, ils adaptent leurs propres services à nos habitudes et ou à nos besoins. Ou tout simplement, certains vendent les données récoltées aux autres sites qui, ces autres sites, les utiliseront pour les raisons précédemment citées. Donc tout ça, ça montre qu'il y a une volonté d'identifier et de connaître l'utilisateur. Dans cette présentation, on va utiliser une comparaison avec un commerçant de quartier. Donc, par exemple, si votre commerçant de quartier il a l'habitude de vous voir venir chaque semaine, il sera capable de mieux vous conseiller ses produits en fonction de vos goûts. Et c'est la même chose sur les sites web. Si les sites web connaissent vos habitudes, ils pourront mieux vous conseiller de la même manière. Donc ces sites web, ils veulent analyser votre comportement et ils veulent stocker ces comportements pour se rappeler ce qui vous plaît le plus lors de votre prochaine visite. Donc pour ce stockage d'informations sur le web, une solution très utilisée, c'est les cookies. Et donc c'est ce qu'on va expliquer dans la seconde partie, mais juste avant, on va voir une petite explication du fonctionnement de ces cookies. Cette explication, elle provient de la CNIL, donc une autorité indépendante française visant à protéger les données personnelles sur Internet, et vous pourrez la retrouver disponible sur leur chaîne YouTube.
Un cookie, c'est un petit fichier stocké par un serveur dans votre ordinateur qui permet de collecter vos données de navigation sur le web. Certains sont nécessaires pour vous rappeler par exemple le contenu de votre panier. Mais d'autres ne servent qu'à une chose, faire de la publicité ciblée. Dans ce cas, les cookies permettent de mémoriser vos données pour créer un profil détaillé de ce que vous consultez, les produits regardés, les liens cliqués et le temps passé. Des infos partagées entre différents intermédiaires et parfois revendues. Et lorsque vous arrivez sur une page avec de la pub, ces acteurs en sont informés et vont chercher ce qui est le plus susceptible de vous toucher. Parfois, ils peuvent même combiner les données pour améliorer leur ciblage. Et bien sûr, celui ayant le plus d'informations sur vous a toutes les chances d'avoir une publicité efficace. Ce qui encourage chacun à collecter le plus d'informations possible pour être compétitif.
Et donc voilà, si on reprend rapidement ce qu'on vient d'entendre, on va résumer à nouveau ce qu'est un cookie. Donc, il s'agit donc d'un petit fichier que les sites web créent et stockent sur votre ordinateur. Ce fichier contient des informations qui vous concernent, parfois des informations utiles, un panier que vous n'avez pas encore validé, si vous êtes déjà connecté sur ce site web, les autorisations que vous avez sur ce site. Mais souvent, c'est aussi utilisé donc pour la publicité ciblée, qui est dans l'intérêt des sites web et des entreprises. Cette description qu'on va faire juste ensuite, elle se base toujours sur des articles de la CNIL. Et on décrit du coup plusieurs catégories de cookies. Donc les first party cookies, qui sont les cookies qui sont accessibles que par les sites qui les ont générés. Donc un cookie généré sur picassoft.net ne sera lu que sur picassoft.net. Petite passe D. Les third party cookies, eux, sont créés et placés par des tiers autres que les sites web que vous visitez. Donc ils sont visibles sur plusieurs domaines et il y a donc un transfert, un échange d'informations entre ces cookies, qui est un transfert qui est parfois monétisé également. Et pour continuer sur l'analogie qu'on a pris au début sur le quartier commerçant, pour essayer que ce soit compréhensible au plus grand nombre, on peut représenter ces concepts avec les exemples suivants. Donc, si on imagine que le web, c'est une grande rue commerçante, avec chaque boutique serait donc un domaine web, un first party cookie, c'est comparable à une petite note qu'un commerçant a prise sur vous pour être plus efficace lors de votre prochain passage. Le boucher aurait ses propres notes sur vous, le poissonnier également. Ces informations, elles restent limitées aux commerçants, donc au domaine qui les a créées. Les third party cookies, quant à eux, on l'a dit, ils sont placés par un tiers. Et on peut voir ceux-là, restez attentifs. Donc on peut voir ceux-là comme un espion qui serait chargé de vous suivre et d'étudier votre comportement chez chaque commerçant. Et puis à votre insu et à chacun de vos passages, il pourra communiquer avec chaque commerçant, même ceux qu'il n'a jamais rencontrés, des informations qu'il a récoltées sur vous et vos habitudes. Pour les aider à choisir ce qui est le plus pertinent pour vous. Vous avez dit chez le boucher que vous avez besoin de nouvelles chaussures, l'agent a noté cela, et lorsque vous arrivez chez le cordonnier, ce cordonnier il a mis en place une promo pour les chaussures dont vous parliez, comme par hasard. Et donc les commerçants utiliseront cet amas d'informations partagées pour proposer des produits, des offres, toutes sortes de publicités adéquates, des publicités ciblées. Voilà. J'espère que la comparaison avec la rue commerçante a été assez claire. On va la réutiliser un peu plus tard, donc essayez de bien la garder en tête.
Merci beaucoup Mathis, n'hésitez pas à réagir sur Mattermost et à poser vos questions. J'ai trouvé que la comparaison était super claire. Du coup, on va prendre quelques questions. Une question de Louis qui nous demande si, à ta connaissance, quand on efface les cookies sur les navigateurs, est-ce que ça les efface vraiment ? Comment est-ce qu'on peut en être certain ?
Comment on peut en être certain ? Je ne sais pas exactement comment on peut en être certain. Je sais juste qu'un cookie, il a une durée de vie maximale de 13 mois, il me semble. Donc au bout de 13 mois, je pense qu'on peut s'assurer que si on les a supprimés, au bout de 13 mois, on peut être sûr qu'ils seront supprimés. Mais autrement, je n'ai pas la certitude.
Et peut-être une question corollaire, c'est est-ce que effacer les cookies, ça efface les données qu'ont les entreprises sur nous
Ça va les effacer au niveau de notre navigateur seulement. Ça va les effacer au niveau de notre navigateur seulement. Donc lorsqu'on va venir, les prochains domaines ne vont plus être capables de lire ces cookies stockés sur notre ordinateur. Mais si les domaines ont des informations stockées sur leur propre serveur, sur nous, et qu'ensuite ils sont capables, grâce à des techniques d'empreinte, de retrouver qui nous sommes, ils vont pouvoir utiliser leurs propres données qu'ils ont stockées et qui ont, même si on a effacé nos cookies, qui n'ont pas été effacées de leur serveur, s'ils les ont stockées de leur côté.
Ok. Carrément, merci. Stéphane qui demandait, est-ce que il existe d'autres modèles économiques à ta connaissance pour financer la présence de services sur Internet si on n'a pas envie de passer par la publicité et du coup par extension le développement de la consommation, de la croissance.
Bah, il y a le, là, on peut recourir au comment ça s'appelle, au financement participatif, de demander des dons à ses utilisateurs. Wikipédia et demande régulièrement, il y a un petit encart en haut de Wikipédia qui demande régulièrement des dons à ses utilisateurs pour pouvoir les faire vivre. Je sais pas si ça marche énormément, parce que je sais que Wikipédia le demande régulièrement et que le message a l'air assez critique, mais c'est une solution autre que la publicité. Et en tout cas, pour Wikipédia, il continue toujours. Donc, je pense que ça fonctionne un minimum.
Merci beaucoup. Stéphane et Amaury posaient une question qui allait un peu dans le même sens. Je pense que ce sera la dernière. C'est une question, je pense, un peu plus d'opinion personnelle. Ah. Est-ce que la personnalisation des services, elle est vraiment utile et ou nécessaire? Et Amaury complétait en disant, bah, si les besoins sont adaptés ou personnalisés à l'utilisateur, alors qu'en fait, ces besoins, ils sont déjà pleinement assouvis, est-ce que...
C'est vrai que c'est très personnel. Je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Ou est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir un service? Ouais, c'est, j'ai l'impression de reprendre juste la question. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de personnalisation? Au final, est-ce que c'est juste un gain de temps, de confort? Et un peu est-ce qu'on veut que tout soit fait plus simplement pour nous? Et est-ce qu'on est prêt à sacrifier nos données personnelles là-dessus? J'ai pas de réponse pour moi et encore moins de réponse pour tout le monde, donc je saurais pas trop quoi dire là-dessus.
Oui, c'est une question difficile.
Question de sensibilité, à quel point est-ce qu'on est prêt à ce que tout soit fait pour nous et à quel point est-ce qu'on est prêt à donner nos données personnelles et aussi à quel point on considère que les données sont personnelles et nous concernent que nous. Donc il y a pas mal de facteurs de sensibilité qui rentre en jeu et la réponse est vraiment unique pour chacun.
Ouais, et puis peut-être que aussi une piste, c'est de se dire, en fait, peut-être que ça peut être utile d'avoir de la personnalisation parce qu'il y a tellement de contenu qu'il faut bien les ordonnancer. Ouais. Mais la question, c'est peut-être de se dire, est-ce que les gens ont choisi? Est-ce qu'ils peuvent choisir d'activer ou non? Peut-être qu'on va en parler un peu dans la suite, notamment Looning avec ton intervention sur le RGPD. Mais... Voilà. Question ouverte donc.
Ouais, question ouverte.
Merci beaucoup Mathis pour ton intervention et donc on va passer à la prochaine intervention. Looning, tu vas nous parler de l'utilisation des données par les entreprises.
Ok, merci. Après la représentation de Cookie, on va s'intéresser maintenant sur l'algorithme de recommandation. Lorsque nous voulons chercher des informations sur Internet, nous utilisons les moteurs de recherche comme Google et nous pouvons trouver directement ce dont nous avons besoin. Mais quand nous ne savons pas ce que nous cherchons, par exemple quand on ouvre YouTube, mais on ne sait pas quoi regarder, c'est là que l'algorithme de recommandation devient très utile. L'algorithme de recommandation permet de recommander des articles, des pages web, des produits, etc. à partir des données des utilisateurs. Ils permettent aux régies publicitaires d'optimiser leur vente, de fidéliser la clientèle et aux utilisateurs de s'y retrouver devant l'immense quantité d'informations à laquelle ils peuvent faire face. Même il est très utile dans certains cas. Il peut aussi causer un phénomène sur Internet, c'est l'information cocon. C'est-à-dire, les gens ont tendance à ne voir que ce qu'ils veulent voir et l'algorithme de recommandation sélectionnera pour eux les informations qu'ils préfèrent. Ce qui finit par rétrécir leur horizon, tout comme un verre à soie qui se fabrique un cocon. L'algorithme de recommandation a tendance à nous faire voir que ce que nous choisissons et ce qui nous réconforte. Il est donc très important de bien connaître comment il fonctionne pour mieux les utiliser. Maintenant, je vais vous faire écouter un extrait de la vidéo YouTube provenant de la chaîne Sassem. Dans cet extrait, il présente quelques résultats d'utilisation de l'algorithme de recommandation.
aux États-Unis, 99% du nombre total d'écoutes sur la plateforme Spotify se concentre sur un dixième du catalogue. Dans le même temps, 20% des morceaux disponibles n'atteignent jamais une oreille. On est loin des découvertes promises. Quoi de plus normal quand les algos sont calibrés pour garantir l'achat ou le clic? Certains influent même sur les choix créatifs. C'est en s'appuyant sur les données de ses utilisateurs que le géant Netflix a décidé d'investir dans la série House of Cards. Le réalisateur David Fincher, plus l'acteur Kevin Spacey, plus un thriller politique, selon les algos, le succès planétaire était garanti. Et gare aux créateurs qui ne rentrent pas dans la case des algos. Pour protéger les annonceurs, les algos de la plateforme YouTube privent de publicité et donc de revenus tout contenu polémique. Selon quelle définition? Seul YouTube le sait. Mal paramétrés, ces systèmes tissent des bulles culturelles opaques aux effets pervers. Moins d'exploration pour les consommateurs, plus de standardisation pour les auteurs. Et au final, un risque réel pour la diversité culturelle dans son ensemble.
Ok, merci. Il existe plusieurs types d'algorithmes de recommandation. On va parler aujourd'hui de l'algorithme basé sur le contenu, l'algorithme basé sur des règles et l'algorithme de filtrage collaboratif. Pour l'algorithme basé sur le contenu, il recommande les contenus ressemblant à ce que l'utilisateur a déjà consulté. Par exemple, si on se met à lire un article sur le sujet de l'univers écrit par NASA, il y a de très grandes chances pour que l'on soit intéressé par un autre article de NASA ou de l'univers, ou bien les deux. Pour l'algorithme basé sur des règles, comme son nom l'indique, il cherche à établir des règles générales et de les appliquer afin d'atteindre leur but. Par exemple, recommandation des articles les plus récents ou recommandation des articles les plus consultés que vous voyez souvent lorsque vous faites des achats sur Amazon. Pour l'algorithme de filtrage collaboratif, il est basé soit sur la relation entre utilisateurs, soit sur la relation entre les éléments. L'algorithme basé sur la relation entre utilisateurs revient à dire que les personnes qui vous ressemblent ont tendance à aimer les mêmes choses. Par exemple, si les gens qui aiment le même type de film que vous ont aimé un nouveau film, il y a de très fortes chances que vous l'aimerez aussi. L'algorithme basé sur la relation entre les éléments revient à dire que les personnes ayant aimé un objet X ont tendance à aimer des objets qui ressemblent à X. Par exemple, les personnes qui aiment manger clémentine ont plus de chances d'aimer manger orange. Au quotidien, l'algorithme de recommandation est souvent en mode hybride, c'est-à-dire il se base sur plusieurs approches de recommandation à la fois. Le but est de surmonter les inconvénients d'une approche et de proposer des recommandations plus fines.
Merci beaucoup, Looning, pour ton intervention. Alors, je me suis trompé hein, dans l'annonce, tu parlais bien des algorithmes de recommandation, mais je pense que tout le monde l'a compris. Alors, il y a Louis qui demandait comment est-ce que c'est possible sur Internet de s'échapper du cocon d'informations dont tu parlais. Est-ce qu'on peut faire en sorte de ne pas rester enfermé dedans?
L'information de cocon, ça vient de quand vous consultez par exemple, quand vous écoutez de la musique, l'algorithme va continuer de vous commander des musiques qui ressemblent à ça, peut-être avoir le même type ou avoir des mêmes mots-clés, etc. Une bonne façon pour éviter ça, c'est de vous sortir de la recommandation de l'algorithme et vous variez ce que vous voulez entendre. Comme ça, vous pouvez éviter l'information de cocon.
D'accord, donc en allant faire ses recherches soi-même, c'est du coup pas forcément via des plateformes de streaming ou quoi, mais c'est possible, il faut essayer d'être un peu actif, c'est ça ? Pour juste pas prendre les recommandations qui viennent et essayer de d'élargir un petit peu.
Oui, parce que quand vous consultez des informations, vous avez la tendance de voir les choses qui est plus cohérent avec ce que vous pensez, mais essayez d'ouvrir dans tous les opinions.
Et alors, tu nous as présenté trois types d'algorithmes basés sur le contenu, les règles ou sur le filtrage. Oui. Est-ce que, à ta connaissance, il y en a un qui est plus utilisé sur les grandes plateformes du numérique, Facebook, YouTube, compagnie, qui cherche avant tout à du coup capter le plus possible le temps passé par les gens dessus et un maximum de données? Est-ce qu'il y en a qui marchent mieux pour ça?
Comme je dis, c'est souvent en mode hybride, mais en fait, par exemple, en YouTube, le plus utilisé, c'est plutôt l'algorithme qui est basé sur le contenu. C'est, par exemple, tu vois une vidéo par rapport à l'univers, tu peux avoir plusieurs recommandations par rapport à ça. Et par exemple, quand vous faites les achats sur Amazon, vous pouvez avoir les recommandations par rapport basées sur le contenu ou plutôt basées sur les règles, etc. Ouais.
Ok, et pour finir, il y a Timo qui demandait, avec toute la diversité qui existe sur Internet, est-ce que ça ne serait pas possible que les recommandations sortent de, du cocon dans lequel on est enfermé? Ou est-ce qu'on est condamné, si on suit les algorithmes de recommandation, à rester dans notre cocon, à ton avis?
À mon avis, parce que, par exemple, on va... parler de l'algorithme basé sur le contenu. Au début, il vous fait la recommandation basée sur ce que vous avez déjà consulté et il fait la recommandation, mais après, les choses qu'il recommandait deviennent le passé et il continue d'analyser les passés pour proposer au futur et ça va avoir toujours une tendance de converger vers un peu des sous-ensembles, des infos et ça provient de la formation de cocon.
Ouais. Donc en reprenant ce que tu disais précédemment, c'est peu probable que sur YouTube, vu que c'est pas mal basé sur le contenu, on sorte du cocon, qu'on dit aussi bulle de filtre, puisque ça va toujours se baser juste sur l'historique, quoi, est-ce qui marche bien.
Oui, c'est ça.
Ok, bah merci beaucoup Looning pour cette intervention. Cette fois-ci, j'espère ne pas me tromper, mais n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Alexis, tu vas nous parler donc... cette fois-ci de l'utilisation des données par les entreprises.
Oui, c'est bien ça. Donc, rebonjour à tous d'abord. Et vous savez désormais à quoi font référence les cookies et quels sont les principes de fonctionnement des algorithmes de recommandation. Cependant, tous ces procédés numériques utilisent de près ce qu'on appelle des données personnelles. Ce sont en fait des informations qui permettent l'identification d'une personne physique, comme vous et moi. Elles sont soit sous la forme de données qui vous caractérisent directement, comme par exemple votre nom ou bien votre prénom, ou soit des données qui ne permettent pas de vous identifier de manière directe, mais qui permettent toutefois de vous reconnaître indirectement. On aurait par exemple un identifiant comme un numéro de sécurité sociale, un numéro de téléphone, une empreinte digitale ou encore votre photo. Mais en réalité, la plupart des organismes ou entreprises sur le web utilisent ces données personnelles avec des objectifs divers, que ce soit une gestion de compte utilisateur, des recommandations ciblées avec notamment les cookies, ou bien des informations bancaires pour des paiements en ligne. On parle ainsi de traitement de données personnelles dès lors que l'on décide d'en manipuler d'une quelconque manière. Donc de la collecte à la communication, en passant par l'enregistrement, l'organisation, la modification, la consultation ou bien l'utilisation en sont des exemples. Tous ces procédés touchent directement les utilisateurs qui voient leurs informations être exploitées par de plus en plus de sites internet et une question de confidentialité se soulève ainsi. C'est pour cela qu'en 2018, le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, s'est imposé pour renforcer les droits des personnes et harmoniser les lois de protection des données personnelles dans l'Union européenne. Voici une courte présentation audio de ce règlement, extrait d'une vidéo sur YouTube intitulée « Le RGPD en 5 leçons » par Auguste Debouzy.
Leçon 1. Le RGPD, une mesure européenne. Le RGPD, ou le Règlement général sur la protection des données, a été voté par le Parlement européen. Il entre en application le 25 mai 2018. L'objectif est d'accorder aux citoyens plus de protection et de visibilité sur l'utilisation faite de leurs données personnelles et de responsabiliser davantage les entreprises traitant de telles données. Leçon 2. Un règlement qui s'applique à toutes les entreprises. Le règlement est applicable à toutes les entreprises établies sur le territoire de l'UE dès lors qu'elles traitent des données personnelles. Les entreprises établies hors UE sont également concernées si elles fournissent des biens et des services à des personnes situées sur le territoire de l'UE. Leçon 3, les sanctions du non-respect. Avec le nouveau règlement, le montant des sanctions s'envole pour les entreprises non conformes. Les amendes peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, ou 20 millions d'euros. Le montant le plus élevé sera retenu.
Donc, comme vous avez pu l'entendre dans cet extrait audio, le RGPD est un règlement européen qui constitue un ensemble de lois visant à réguler l'utilisation de nos données personnelles. Pour le faire respecter, chaque pays européen a sa propre organisation. Donc, par exemple, en France, nous avons la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou autrement CNIL, qui s'occupe de faire appliquer et sanctionner les entreprises qui ne respectent pas le règlement. Concrètement, depuis l'instauration du RGPD, lorsque vous allez sur un site qui utilise vos données personnelles sous forme de cookies, par exemple, il est dans l'obligation de vous en informer via un pop-up apparaissant sur la page et doté d'un lien vers une politique de confidentialité où est expliqué comment et pourquoi telle ou telle donnée personnelle sont utilisées par l'entreprise. Cette obligation de consentement va de pair avec des principes du RGPD visant à ce que tout traitement de données personnelles soit assigné à un objectif précis pour l'entreprise. On ne peut évidemment pas collecter des données dont on ne se sert pas et dont on a l'intention de se servir, et on doit être transparent avec les utilisateurs quant aux informations collectées. Le RGPD, mais aussi d'autres règlements équivalents en dehors de l'Europe, comme le PECR au Royaume-Uni, ont pour objectif d'empêcher tant bien que mal certaines dérives qui pourraient avoir lieu, comme le scandale de l'entreprise britannique Cambridge Analytica, qui avait été accusée en 2018 d'avoir collecté et traité des données personnelles de 87 millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement, dans le but de leur cibler des messages favorables au Brexit et à l'élection de Donald Trump aux États-Unis en 2016. Pour conclure, depuis 2018, et entre autres ces scandales, la tendance est à la transparence et au respect de la confidentialité par les entreprises sur le web. De nouvelles lois et technologies ne cessent de se créer afin de respecter les droits des utilisateurs. L'option refusée sur les cookies est par exemple désormais obligatoire depuis le 1er avril 2021.
Merci beaucoup Alexis pour ton intervention. On va prendre quelques questions maintenant ou plus tard si vous en avez sur Mattermost. En attendant, j'en ai une. Est-ce que les infractions au RGPD elles sont sanctionnées par exemple en France? Et du coup, est-ce que la CNIL, à ta connaissance, elle mène des enquêtes sur les entreprises qui traitent des données personnelles ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des signalements?
Pour les signalements, je pourrais pas vous répondre, je ne sais pas si on doit la signaler ou pas, mais en tout cas, tous les ans, elle rentre en procès certaines entreprises qui ne respectent pas les RGPD, et il y a plusieurs millions d'amendes accordées chaque année, depuis 2018, donc l'instauration de la RGPD.
Une question de Louis, c'est qui nous demande, est-ce qu'un site peut légalement nous forcer à quitter le site ou à ne pas pouvoir utiliser les services si on n'accepte pas les cookies?
Oui, ils sont dans le droit de vous interdire l'accès. Certains journaux vont même jusqu'à obliger d'accepter les cookies. Sinon, si on veut les refuser, il faut payer un abonnement ou quelque chose comme ça. Parce que leur seul moyen de rémunération, c'est les publicités. Et si on enlève les cookies, les publicités sont plus ciblées. Donc, ils gagneront moins d'argent. Et ils sont obligés de faire un abonnement payant pour pouvoir... équilibrer un peu ça et quand même être rentable là-dessus.
Stéphane pose une question un petit peu difficile à laquelle tu es libre de répondre comme tu veux. Il nous demande si le RGPD, finalement, ce ne serait pas un moyen de consolider la pratique de collecte des données en mettant un cadre qui pousse beaucoup de gens à accepter, plutôt qu'une critique de la collecte des données. Est-ce que finalement, il est axé sur le choix des utilisateurs? C'est une question orientée, j'ai l'impression.
C'est-à-dire le choix des utilisateurs.
Est-ce qu'il nous donne vraiment le choix, on va dire, de refuser, puisque dans pas mal de cas, tu peux avoir une interdiction au service ou...
Oui, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment le choix de refuser, mais c'est plus un moyen d'encadrer un peu toutes ces règles et de imposer une certaine restriction pour empêcher les dérives, comme je l'ai un peu expliqué dans ma présentation.
Ok. Bah écoute, merci beaucoup Alexis.
Merci à vous.
On va passer à la dernière présentation. Kylian, tu vas nous parler d'une alternative qu'a développée récemment Google à tout l'écosystème des cookies. C'est à toi.
C'est ça. Donc après qu'on vous ait présenté donc les RGPD, les cookies et les algorithmes de recommandation, je vais maintenant vous présenter donc l'alternative sur laquelle Google travaille en ce moment et pourquoi en fait il veut effectuer ce changement de fonctionnement. Donc comme l'a dit Alexis juste avant, il y a donc le CNIL qui existe en France et qui donne des amendes à beaucoup d'entreprises. Et donc en 2020, en fait, Google a été sanctionné par le CNIL pour ne pas avoir proposé aux utilisateurs l'option de refuser les cookies. Et donc en fait, cette amende, elle s'élève à 150 millions d'euros. Et en fait, ce qu'on leur reproche, c'est que dès l'arrivée sur Google.fr, on affecte à l'utilisateur plusieurs cookies à des fins publicitaires, et ça sans leur consentement. Ces cookies sont de plus pas essentiels au bon fonctionnement du site. Donc en fait, et en plus, il s'avère que même si l'utilisateur refuse le cookie, on lui en a fait quand même un seul à des fins publicitaires quand même. Et donc en fait, cependant, depuis 2009, il est obligatoire pour un site web de demander l'approbation de l'utilisateur pour lui affecter un cookie qui est non essentiel au bon fonctionnement du site. Cette loi a également été remise sur la table en 2018 avec donc l'instauration des RGPD, comme vient de le dire Alexis. Et le CNIC dit formellement que toute entreprise qui ne suit pas cette loi sera sanctionnée. Elle fixe ses amendes sur le principe du nombre de personnes victimes ainsi que sur les bénéfices générés grâce aux publicités. Et donc en fait, après cette sanction, Google, ils ont eu la volonté de se séparer des cookies qui sont maintenant trop réglementés. Et donc ils ont créé le projet de Privacy Sandbox qui vise à trouver une alternative à l'utilisation des cookies à des fins publicitaires. Ils ont développé deux solutions, une qui a été abandonnée parce qu'il y a eu beaucoup de revendications d'organisations luttant pour le respect de la vie privée, et une autre que je vais vous présenter juste après. Mais avant ça, je vais vous faire écouter donc un court extrait de la vidéo YouTube qui vient de la chaîne de Michel Kartner, qui est quelqu'un qui vulgarise sur la cybersécurité sur YouTube. Et dans cet extrait, en fait, il explique le principe de Privacy Sandbox de Google.
Google Privacy Sandbox. Le bac à sable de confidentialité de Google est en fait un projet qui vise à mettre fin à ces cookies tiers. Fini les pistages intersites, fini les publicités ciblées, fini en somme les atteintes à la vie privée. Une sandbox, donc un bac à sable en anglais, est en fait un environnement contrôlé et restreint dans lequel on peut faire des choses sans risque. Le voilà en fait le rapport avec le bac à sable, on construit, on démonte, on refait, ça reste du sable, et donc dans un bac à sable on ne risque rien. En termes informatiques, il s'agit d'isoler des données pour diminuer les risques de mauvaise utilisation. Pour en revenir à Google, ils veulent en fait faire un nouveau type de navigateur, entendez par là Google Chrome version plus 1, qui va changer le fonctionnement de ces cookies tiers. Par défaut, ils resteront en fait dans le navigateur de l'internaute, et avec des API, entendez par là des fonctionnalités proposées aux annonceurs publicitaires, permettront de récupérer des informations données de façon contrôlée.
Et donc, une des API qui a été développée par Google, c'est donc la solution qui s'appelle Topics. Et en fait, ces solutions, elles visent à être implémentées dans Google Chrome et à supprimer l'utilisation des cookies. Le fonctionnement de cette solution est assez complexe. En gros, le navigateur, il crée une liste des 5 centres d'intérêt les plus importants concernant l'utilisateur. Et par conséquent, si l'utilisateur va sur un site web qui correspond à un de ces centres d'intérêt, le navigateur va envoyer l'information au site web. Et en fait, après, une pub va s'afficher sur la page web. Pour simplifier, je vais réutiliser la situation de vie qu'on a vue la première partie. Donc, on se place toujours dans cette rue piétonne qui est remplie d'hyper commerce. Et cette fois-ci, j'accompagne un courtier qui prend note des choses que j'aime. Donc, en fait, il va cocher 5 centres d'intérêt présents dans une liste de 350 centres d'intérêt différents. Et donc, en fait, ce courtier va se balader tous les jours et tout seul dans la rue commerçante. Et les commerçants vont venir le voir sans savoir qui est le réel client derrière ce courtier. Donc les commerçants vont lui donner des pubs et le courtier va les prendre seulement si elles m'intéressent et correspondent à mes 5 centres d'intérêt. Le courtier va ensuite revenir chez moi, me les présenter et si elles m'intéressent, je vais les prendre. Enfin, voilà. Donc par exemple, si le courtier note que j'aime la viande, j'aime les fleurs et j'aime l'athlétisme, lorsqu'il va passer dans la rue piétonne et qu'un boucher va lui proposer une pub pour un nouveau produit ou une réduction, il va l'accepter. Cependant, si un magasin de jouets vient voir mon courtier et lui propose des pubs, le courtier va la refuser car il sait que je ne suis pas intéressé par ce type de magasin. Donc pour conclure, les sites commerçants n'ont théoriquement pas accès à l'identité de l'utilisateur. Ils ne peuvent même pas l'identifier en passant par le courtier. et cela rend l'alternative Topix plus respectueuse de la vie privée.
Merci beaucoup, Kylian, pour ton intervention. Une question que je me pose par rapport à Topix, c'est que c'est quoi l'intérêt pour Google de développer une solution qui bouleverse tout l'écosystème alors qu'il pourrait se conformer au RGPD et respecter le consentement en matière de cookies, puisque avec sa position dominante, on imagine bien les gens boycotter Google du jour au lendemain.
Ouais, en fait, avec les RGPD, donc les cookies sont beaucoup plus réglementés et beaucoup plus contrôlés. Ce qui ferait que Google aurait moins de contrôle sur les cookies qu'il pourrait envoyer, les informations qu'il pourrait collecter. Donc avec cette solution-là, ils veulent avoir la main mise vraiment sur les informations que l'utilisateur va leur proposer. Et ça va leur permettre de créer une domination un peu sur le secteur de la publicité, où les régies publicitaires vont venir les voir parce que c'est plus réglementé, donc ça tend à durer plus longtemps dans le temps, en fait.
Ok, donc toi, de ton point de vue, il y a vraiment une amélioration en matière de vie privée pour les utilisateurs, et dans le même temps, c'est une manière de faire en sorte que toutes les régies soient obligées de passer par eux. Je résume bien ce que...
C'est ça, ouais.
Ok. Il y a Louis qui demandait, c'est quand même assez limité, 5 centres d'intérêt. Est-ce que c'est des centres d'intérêt qui changent, qui sont renouvelés de temps en temps ?
Alors en fait, ouais, c'est ça. Donc il y a 5 centres d'intérêt sur 350 différents qui sont proposés. C'est des centres d'intérêt assez, assez précis. Ça peut être, comme j'ai dit, de l'athlétisme, ça peut être de la musique country, enfin voilà. Et ces 5 centres d'intérêt sont rafraîchis toutes les 3 semaines. Donc en fait, toutes les 3 semaines, les 5 centres d'intérêt sont remis à niveau par rapport à la navigation qu'on a fait et l'utilisation qu'on a fait du web.
Ok, merci beaucoup. Peut-être une dernière question, sauf si j'en vois qui arrive, que n'importe qui peut répondre. Il y a Amaury qui se demandait le fait que pour les cookies, le RGPD, il a voulu restreindre l'usage des cookies. Et dans les faits, la plupart des sites web proposent un mur d'acceptation des cookies, où en gros, vous l'avez dit, si on refuse, on ne peut pas accepter le contenu. Est-ce que là-dedans, qui est le vrai perdant ? Est-ce que c'est l'utilisateur ou bien l'entreprise qui collecte les données ? Est-ce que quelqu'un a quelque chose qui perd ? Enfin, ouais.
Pour moi, il y a quand même, c'est perdant des deux côtés, parce que pour l'utilisateur, si on n'a pas accès au contenu, on n'a pas accès à l'information qu'on voudrait avoir. Donc typiquement, si on veut faire une recherche sur un site d'un journal sur le web, on n'aura pas l'information, l'article qu'on aura. Mais d'un autre côté, le journal est aussi un peu perdant parce que y a pas les pubs seront pas visionnées, enfin les informations seront pas collectées, et il y a des vues, enfin il y a plein de choses derrière qui font qu'ils sont perdants quand même dans l'histoire. Donc c'est
ouais. Ok, du coup de ce point de vue-là, les murs d'acceptation des cookies pour vous c'est un peu perdant. Est-ce que ça n'a pas permis à des services alternatifs d'émerger, ou des modèles de financement un petit peu différents d'émerger, ou est-ce qu'en pratique on n'a pas vu ce genre de choses ?
Des modes de financement alternatifs, c'est-à-dire ?
Typiquement le fait de soit passer sur une économie plus du don comme ceux de Picassoft, où du coup on n'utilise pas forcément de cookies, ou alors effectivement des modèles plus d'abonnement. Est-ce que en gros, à votre connaissance, le RGPD ça a un peu poussé vers ces modèles où les gens se sont juste dit non, en gros, si je dois payer ou si je dois faire un don, je consulterai juste pas les trucs.
Je pense que l'exemple qui a été pris sur les sites de journaux qui proposaient des abonnements, personnellement, je l'ai vu apparaître il y a peu de temps sur le web. Donc je pense que c'est dû aussi au fait que le RGPD est apparu. Typiquement, je pense que c'est une grande cause de ça. Parce que ils sont perdants si tout simplement on refuse des cookies. Donc c'est une solution beaucoup plus simple pour eux de proposer un abonnement que de compter sur des dons que les gens feront possiblement, en fait.
Ok, bah merci beaucoup. On verra ce que l'avenir nous réserve en matière de publicité, données personnelles sur le web et modèle économique des services numériques. Merci encore à tous les quatre pour votre présentation qui était vraiment super intéressante et bien construite. Vous pouvez réécouter les interventions des étudiants de WE1 en podcast sur graphite.net et puis sur l'instance PeerTube aperi.tube d'ici quelques temps sur la chaîne Upload. Si vous êtes curieux ou curieuse de ce qu'on apprend en WE1, eh bien vous pouvez faire un tour sur librecours.net pour retrouver tous les supports de cours. Et puis, on a encore deux sessions dans l'après-midi à 16h30 puis 17h30 qui seront animées par Audrey Guélou. Merci encore à tous les cinq pour votre travail.
Merci.
Merci à vous.
Et merci à Graphite pour l'accueil de ce format d'émission et bonne fin de journée à toutes et à tous.